Serge Barbusset, nous sommes à 3 semaines de la nouvelle création de votre compagnie, dont vous signez la mise en scène, c'est Le Fossé. Un petit mot sur ce fossé, comment vous est venue l'idée et l'envie surtout de monter ce texte?
Oui, bah écoutez, comme vous le savez, c'est le texte de Jean-Baptiste, mon fils. C'est pas parce que c'est son texte que j'ai voulu monter ce projet. Mais il n'empêche qu'à la lecture, au départ, j'ai tellement été séduit par cette écriture assez jeune et aussi par ce qui est dit dans cette pièce qui m'intéressait beaucoup. Voilà, j'ai eu envie de la créer et ça me permet d'avoir cette complicité avec Jean-Baptiste. Notre premier échange où lui est auteur et moi metteur en scène. Ce qui fait qu'on a pas mal d'allers-retours. C'est l'avantage d'un texte vivant, c'est que c'est une matière qui est encore en mouvement jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Jean-Baptiste Barbusset, le titre de la pièce, c'est Le Fossé. C'est pas le trou, c'est pas la tranchée, même s'il y a des personnages qui creusent. Alors Le Fossé, c'est quoi exactement? C'est le fossé des générations? C'est le fossé des classes sociales? Ou c'est autre chose?
Je crois que ce fossé, justement, il est un peu tout à la fois. J'ai l'impression qu'un fossé, un écart en tout cas, se creuse entre les gens. Et donc cette symbolique-là, je la trouvais assez juste. Après, je dirais aussi que Le Fossé, c'est un hommage, hein, en toute humilité, aux textes qui m'ont toujours parlé, aux auteurs du théâtre de l'absurde, donc à Beckett, parce que ce fossé, il est là, mais ils attendent aussi quelque chose. Ils se creusent et on attend quelque chose. Ça peut être les inégalités, mais ça peut être aussi cette absence de pont entre les gens, donc l'impossibilité de se parler, et on sent bien que ces personnages n'arrivent pas à se comprendre et qu'ils défendent tous avec leur certitude un monde qui, justement, s'écarte, en tout cas. Oui.
Ils sont arrivés comment, ces personnages que l'on voit dans la pièce? Certains qui creusent et d'autres qui comblent, d'une certaine manière.
Tout simplement, j'ai vraiment vu autour de moi ces gens-là. C'est-à-dire que je pense que, bien sûr, ils ont leur folie et puis ils ont une certaine manière, parfois, désopilante. Ou alors, il y a aussi ce côté de l'absurde qu'on retrouve. Mais ce sont des personnes qui, pour moi, existent aujourd'hui et sont bourrées de certitudes. Et c'est ce qui les entraîne, finalement, à « je suis certain qu'il faut creuser, je suis certain qu'il faut reboucher, moi, je sais pas trop, parce que bon, bah, je fais comme je peux, je suis le mouvement. Oh non, mais moi, j'ai tout vu, je sais tout, mon Dieu, à l'époque, vous creusiez déjà, ça ne se passait pas comme ça. » Et donc, chacun amène un petit peu sa pierre à ce fossé. Et c'est pour ça que tous ces personnages s'enchaînent et entrent en contact les uns avec les autres. Et qu'il y a une vraie confrontation entre cette communauté qui se crée au fur et à mesure.
Serge Barbusset, qui dit fossé, dit des gens qui creusent. Alors montrer des gens qui creusent au théâtre, c'est pas évident, hein, par rapport à la perspective du spectateur. Vous travaillez plutôt sur en verticalité, ce qui est à la fois un mur qui est mobile sur le plateau, et puis il y a aussi des cubes, enfin, ou des éléments de carton qui vont et qui viennent, et qui peuvent constituer là aussi une muraille ou des obstacles.
Oui, tout à fait. J'ai pas voulu qu'on puisse voir le fossé. J'ai trouvé que l'idée d'avoir une palissade, un mur en tout cas, c'est important, puisqu'il prend toute la scène, où on sait que tout se passe derrière ce mur. Il y a cette idée que le fossé, c'est en même temps quelque chose que tout le monde ressent, mais que personne ne voit finalement. Il est là de façon tout à fait insidieuse. Tout souvent, les gens disent « Ah, le fossé se creuse sur différents plans, sur divers sujets de société. » On en a ce type de réflexion. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce mur qui le cache. Le mur, d'ailleurs, jouera un rôle très important pendant la pièce. Ça, je ne vais pas tout dévoiler. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est dans cette pièce, dans le fossé, on a cette idée d'une jeunesse totalement désespérée, qui ne croit plus à rien. On est dans cette jeunesse d'aujourd'hui qui se dit qu'on est à la fin de quelque chose. On n'est pas au début de quoi que ce soit et qui ne pense plus qu'elle aura les moyens de créer quelque chose. Il n'y a plus d'utopie qui permet aux gens de se retrouver et de se réunir avec une utopie commune pour créer quelque chose. Tous les personnages sont solitaires. C'est-à-dire chaque personnage se retrouve avec lui-même, en essayant de croire à quelque chose, en essayant de trouver une certitude, mais finalement totalement désemparé. Ça, c'est la base. Alors, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans son écriture, et qui pour moi a été vraiment une manière de repenser ma manière de travailler, il y a beaucoup d'humour. On est par moments très proche de la bande dessinée. Et cet humour, cette comédie, où on arrive par moments à la farce même, ça permet de faire passer des idées tellement difficile, tellement complexe sur notre époque, et d'avoir un miroir de notre époque qui est très intéressant. C'est pour ça que Le Fossé, c'est vraiment une pièce d'aujourd'hui, c'est une pièce de la fin de quelque chose, et j'espère, moi, que c'est le début d'autre chose, quoi, que c'est pas du tout la fin, mais au contraire, le début. Donc évidemment, moi je suis un pessimiste optimiste, je dis toujours, je suis d'un grand pessimisme, mais en réalité je suis totalement optimiste parce que j'espère toujours malgré tout et malgré la situation qu'il y aura quelque chose qui va faire qu'on pourra y aller quand même, quoi.
Jean-Baptiste Barbusset, la première phrase du fossé, c'est la première phrase d'un grand chef-d'œuvre de la civilisation théâtrale, enfin de l'histoire du théâtre. C'est la première phrase d'un intendant Godot de Samuel Beckett, qui était vraiment un grand maître du théâtre de l'absurde. Et en même temps, dans le dossier de presse, vous citez Sergio Leone, un extrait du Bon, la brute et le truand, citant « Dans la vie, il y a ceux qui tiennent un revolver et ceux qui creusent, et toi tu creuses ». Là aussi, sur le morceau de répétition auquel j'ai assisté il y a quelques semaines, il y a à la fois un humour assez potache de temps en temps, avec des jeux de mots, des calembours. Et puis, il y a quand même une vraie violence, une certaine brutalité entre les personnages.
Oui, oui, je crois que c'est une pièce qui est très difficile à cerner, et je l'espère comme ça, finalement. Je dirais qu'en fait, elle est à mon image, parce que j'ai eu un parcours peut-être un peu atypique avant d'arriver à écrire cette deuxième pièce, mais la première qui sera montée. Je crois qu'elle est un mélange de toutes ces références que je peux avoir. Alors bien sûr, il y a ce côté Beckett, et je crois qu'il faut vraiment, enfin, une petite réponse à Godot que je réactualise en fait à notre époque. C'est-à-dire, je me dis que lui, quand il écrit ça, il part du principe qu'on est à la sortie d'une guerre qui a vraiment, on va dire que tout a explosé et que désormais on peut reconstruire sur quelque chose, sur des nouvelles fondations, puisqu'il n'y a plus rien. Nous, je crois qu'on est à une époque où au contraire, on sent que cette fin arrive, mais rien n'explose, et donc on continue de construire sur des fondations qui sont a priori instables et qui vont, ils risquent en tout cas, à un moment ou un autre, d'exploser. Donc c'est, je crois, encore pire finalement, parce que nous, on n'a plus l'espoir que les choses s'arrangent, on attend juste que ça pète, quoi. Juste pour revenir à la question, il y a toutes ces références musicales, cinématographiques, de la bande dessinée, de l'absurde. Donc je mélange, mais je crois de toute façon qu'on fait toujours mieux passer les messages les plus violents avec un propos qui peut paraître plus décalé et plus humoristique. Oui.
Serge Barbusset, au niveau de la distribution, alors vous avez un maître éclairagiste, oui, et technicien en coulisses.
Exceptionnel.
Et il y a Fabrice, donc le sociétaire du Théâtre du Balcon. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une chèvre qui parle dans le spectacle. Oui. C'est une bouffon, non ?
La chèvre, alors au départ, dans l'écriture, moi, il m'a mis la chèvre. Donc avec ça, il fallait que je... Bon, évidemment, après, quand on lit le texte qui est attribué à ce personnage, on s'aperçoit que c'est un personnage qui est entre le chaman et l'illuminé. C'est des gens qu'on peut rencontrer dans la rue. Donc c'est un personnage, d'ailleurs, pendant un très long moment, on ne l'entend pas. Il est juste dans un coin, il ne dit pas un mot. Et à partir du moment où on commence à lui parler... Là, c'est fini, il n'arrête plus. Et il devient une espèce de personnage qui prend toute la place, qui raconte des histoires, qui représente un peu la mémoire. On a l'impression quand même que dans ce qu'il est en train de dire, il a une connaissance que les autres n'ont pas forcément. On a l'impression que les autres personnages sont beaucoup plus limités dans leur mémoire, qui sont beaucoup plus dans le présent. Et c'est le seul qui est assez orienté dans le passé. C'est à la fois un philosophe, on peut imaginer qu'il y a de la philosophie, c'est aussi un conteur, mais c'est aussi un chaman, mais c'est aussi un illuminé, c'est aussi peut-être un personnage dérangé. Tout ça, ça fait la chèvre. C'est aussi le bouc. Et le bouc, dans la tragédie, le sacrifice du bouc, c'est quand même quelque chose qui est totalement dans la définition même du théâtre. Et donc ça m'a intéressé, évidemment, moi, homme de théâtre, d'aller fouiller là-dedans. Mais c'est vrai que le texte de Jean-Baptiste permet d'être à la fois dans les grands classiques du théâtre, les fondements même, et en même temps totalement débridé. Et les comédiens me posaient la question à un moment donné, mais c'est quel type de spectacle? Est-ce que c'est ça qu'on doit jouer ou ça? Je leur ai dit, mais c'est pas ça. Ou ça, c'est ça et ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un spectacle qui mélange des écritures. C'est pas habituel, mais on se retrouve à la fois dans des choses qui sont totalement écrites, inscrites dans une tradition théâtrale, et aussi des parties aussi qui sont potaches, comme on dit, qui sont à la limite dans la farce, et ce qui fait qu'on rit. On rit beaucoup dans ce type de spectacle, et on sort, à mon avis, un peu noué.
Justement, comment avez-vous construit la distribution autour de Fabrice Lebert, qui est un acteur qu'on retrouve régulièrement, et les autres acteurs, j'avoue que je ne les connaissais pas. Il y a notamment cet acteur qui a une voix de stentor et qui physiquement, on dirait presque un ogre géant comme ça, qui est sur le plateau.
Ce monsieur-là, c'est Laurent Montel, qui n'est pas n'importe qui est un avignonnais. au départ. Donc ça me touche beaucoup, qui a fait une partie de sa carrière à Paris, il a été à la Comédie-Française, il a fait pas mal de tournées, puis il revient sur Avignon. Et évidemment, comme nous connaissions déjà, et que j'aime beaucoup cet acteur, je trouvais que pour le personnage de Pierre, il était formidable, et d'ailleurs c'est un personnage qui prend totalement au corps, on va dire au corps, le personnage de Pierre. En ce qui concerne Meïssane Marocchi, c'est une jeune comédienne, ça va être, je crois, l'un de ses premiers rôles professionnels, et je trouvais intéressant, dans ce moment où nous sommes nous-mêmes dans la transmission entre mon fils et moi, que je puisse aussi dans ma distribution retrouver un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un comédien avec une carrière déjà bien inscrite dans son parcours et puis une jeune comédienne qui fait un peu ses premiers pas. Meïssane, je l'ai trouvée vraiment formidable et je trouve que dans le rôle d'Amel, elle dégage quelque chose, elle a une puissance qui est assez étonnante pour son âge. Les distributions, c'est une grosse partie du travail, parce que la distribution qu'on a pu réaliser sur ce spectacle, elle crée énormément, il y a une force dans le spectacle qui se fait grâce à cette équipe-là. Alors donc j'ai Xavier Coppet, un acteur parisien qui a commencé déjà à travailler, que je trouve formidable dans le rôle de Mousse. Je voulais quelqu'un d'un peu enfantin, très physique, et il a l'avantage d'être à la fois physique et assez enfantin. Donc il donne tout à fait ce que je souhaitais du personnage. Il est sans doute le personnage le plus naïf de la pièce. Il est prêt à tout, parce que pour l'instant, il n'est encore associé à rien, ce qui n'est pas le cas ni d'Amel, ni de Pierre. La chèvre, bon, mais vous savez, c'est mon cher Fabrice, c'est un tel plaisir de le retrouver. On a une complicité qui s'est faite de spectacle en spectacle. Et puis, il y a Alice Faure qui joue le dernier personnage de la pièce, qui est un peu un personnage qui représente un peu la figure du théâtre. Voilà ma distribution. Alice, nous avions travaillé ensemble lorsque j'ai fait Les Petits Boulots pour Vieux Clown. Elle était l'assistante de Virginie Lemoine. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on avait envie de continuer l'histoire.
Jean-Baptiste, alors comment ça se passe ? Donc, c'est votre deuxième pièce, c'est la première qui va être montée. Vous avez donné le texte au metteur en scène, donc vous êtes quand même très très proche, et vous le laissez faire. Lorsque j'ai assisté à la répétition, vous étiez dans la salle aux côtés de Serge. Est-ce que vous intervenez ? Est-ce qu'éventuellement, c'est bien les auteurs vivants, parce que comme ça, ils peuvent donner leur avis, mais ils peuvent modifier le texte. Alors, comment ça se passe exactement, le travail ?
Alors, donc, je lui ai donné le texte. Je crois qu'il a fait quelque chose qu'il ne fait pas souvent, c'est-à-dire qu'il a laissé l'auteur ne serait-ce que rentrer dans la salle de répétition. Donc je me suis permis d'entrer, parce que je crois que, justement, comme il a pu le dire sur la distribution, nous aussi, on est en train de combler un premier fossé peut-être générationnel, donc entre les acteurs, mais aussi entre l'auteur et le metteur en scène. Enfin, en tout cas, il a bien voulu entendre certaines de mes remarques, mais pas forcément toutes les écouter, c'est ce qu'il a tendance à dire. Mais c'est une bonne chose parce que finalement, il y a aussi ce côté, pourquoi je voulais absolument donner ce premier texte monté à mon père ? Ben parce que c'est ici que j'ai découvert le théâtre, il y a tout un héritage et donc un travail de transmission qui se reflétera dans cette pièce, et ça c'est quelque chose qu'on ne nous enlèvera pas, c'est un vrai cadeau finalement pour l'un et pour l'autre, je crois, de pouvoir travailler ensemble. Donc j'ai mon mot à dire et j'ai aussi beaucoup à apprendre surtout. Lui, il m'apprend, mais il me laisse dire mon mot, donc c'est donnant-donnant et ça fonctionne bien, même si je pense qu'il n'en a pas l'habitude.
Je voudrais juste rajouter, moi aussi j'ai beaucoup à apprendre. La pire chose, c'est quand on pense qu'on sait tout. Chaque pièce, pour moi, c'est aussi un grand apprentissage, à la fois de mon métier, qui me donne toujours une curiosité et un apprentissage de ce que j'ai à faire. Ce qui a été pour moi un peu déroutant au début, c'est justement qu'ils puissent assister aux répétitions. J'aime pas trop que les auteurs restent présents, parce que j'ai besoin de beaucoup de liberté. Mais heureusement, il sait à la fois être présent et discret. Donc ça m'a permis de pouvoir vraiment vivre ma mise en scène et la dramaturgie sans me sentir contraint. Voilà, sinon c'est formidable évidemment. Je suis tellement heureux de partager avec mon fils ce métier. Quand il était plus jeune, par moments j'étais un peu malheureux de penser que j'avais pas assez de temps pour eux. Parce que vous savez, quand on est en activité, on n'a pas toujours du temps à leur consacrer. Et là, tout à coup, il rentre dans le domaine qui m'a quelquefois exclu de la maison, quoi. Donc ça m'intéresse beaucoup de le partager avec lui.
Le fossé va être créé début avril au Théâtre du Balcon. Oui. Et tout comme votre création précédente, Petit Boulot pour Vieux Clown, vous allez jouer au mois d'avril pendant quasiment une semaine tous les soirs. Donc c'est quand même une série assez consistante à Avignon, en dehors du festival. Pourquoi cette volonté de tenir sur une semaine ?
Je pense que les théâtres d'Avignon gagneront en maturité lorsqu'on sera capable de créer des séries. Il n'y a rien de plus frustrant.
Un spectacle vivant, plus on joue, plus ça coûte cher.
Évidemment, c'est un vrai pari chaque fois, c'est un pari difficile, mais c'est la seule manière aussi, vous savez, le nombre de spectateurs qui me disent à chaque représentation, ah ben moi je ne savais pas que le théâtre ça existait aussi hors festival. Avignon est complètement pris en tenaille par le festival et la ville a du mal à exprimer sa présence permanente. Et je pense que ce n'est pas en faisant des représentations ponctuelles, une représentation, qu'on gagne ça. Le public a besoin d'entendre parler d'un spectacle, de faire venir quelqu'un. Le théâtre, c'est un virus, hein. Ça s'attrape, donc il faut qu'il y ait un peu de monde qui vienne et qui le fasse attraper à d'autres. Et c'est comme ça que les gens arrivent. Il faut vraiment qu'il y ait ce côté viral. Moi, j'ai besoin de le faire. C'est un pari que j'espère développer d'année en année, au moins d'avoir une ou deux séries dans l'année où on va chercher le public. On va se battre pour le faire venir. Jusqu'à présent, finalement, peu ou prou, il est venu. Donc je remercie tous les gens qui viennent justement pendant l'hiver nous donner raison d'ouvrir. Le théâtre, il est à eux, hein, il n'est pas à moi. Moi, je suis là pour le servir. Les gens qui viennent, c'est eux qui font le théâtre. C'est le public qui est là et qui fait que ce théâtre existe.
On se donne rendez-vous dans le fossé, alors.
Oui.
On creuse ensemble.
On va creuser tous ensemble. Ouais.